Radio Vatican, Français-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le mardi 25 janvier a marqué la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le pape François a présidé les vêpres à cette occasion dans la basilique Saint-Paul hors les murs. Je propose que le mercredi soit la journée des prières pour la paix à l'intention de l'Ukraine. Le pape François avait lancé cet appel après la prière de l'Angelus du dimanche 23 janvier dernier à cause de la dégradation des conditions sécuritaires à la frontière russo-ukrainienne. Nous reviendrons sur cet appel du pape dans l'actualité de l'Église. L'actualité de l'Église qui nous conduira également au Mali, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Pour l'actualité sociale et politique africaine, nous ferons le point sur la situation au Burkina Faso. Nous nous rendrons également au Mali, au Soudan, à Madagascar, entre autres. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, Français-Afrique, Stanislas Kambashi.
Le mardi 25 janvier, nous le disions dans les titres, a marqué la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À cette occasion, le pape François a présidé les vêpres dans la basilique Saint-Paul hors les murs. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. À l'issue de la prière de l'Angelus dominicale du 23 janvier, le pape François avait fait part de ses préoccupations devant la dégradation des conditions sécuritaires à la frontière russo-ukrainienne. « Je suis avec inquiétude la montée des tensions qui risque de porter un coup à la paix en Ukraine et de remettre en cause la sécurité du continent européen avec des répercussions encore plus larges », avait expliqué François. Le pape avait par conséquent souhaité lancer un appel sincère à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'elles prient le Dieu Tout-Puissant afin que toutes les actions et initiatives politiques servent la fraternité humaine plutôt que les intérêts partisans. Ceux qui poursuivent leurs propres objectifs au détriment des autres méprisent leur propre vocation d'être humain, car nous avons tous été créés frères, a poursuivi le pape. Pour cette raison et avec inquiétude, compte tenu des tensions actuelles, je propose que le mercredi 26 janvier soit une journée de prière pour la paix, ainsi a annoncé le Saint-Père. La situation dans l'est de l'Ukraine est depuis plusieurs semaines l'objet d'un bras de fer entre la Russie et les pays occidentaux. Moscou a massé des troupes à la frontière avec l'Ukraine et est accusé de vouloir envahir son voisin, ce que dément catégoriquement Moscou. Les récents pourparlers diplomatiques entre les États-Unis et la Russie sur la question ukrainienne se sont tous soldés par un échec. Des détails de Pierre Benazet.
Du côté de l'OTAN, on en est arrivé ce lundi à une sorte de mobilisation, puisque l'Alliance annonce que plusieurs pays membres mettent leurs armées en état d'alerte. Des renforcements aériens et maritimes sont en route, venant d'Espagne, des Pays-Bas ou du Danemark. Et l'OTAN affirme que France et États-Unis se sont dit prêts à envoyer des renforts. Le secrétaire général de l'Alliance reçoit ce lundi la ministre britannique des Affaires étrangères, alors que le Royaume-Uni a fait évacuer de Kiev ses personnels non essentiels, à l'instar des États-Unis, aux grandes dames de l'Ukraine. Mais du côté de l'UE, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, affirme qu'il n'y a pas de raison de procéder à de telles évacuations, car, je cite, « il ne faut pas dramatiser, il n'y aura donc pas d'évacuations européennes, sauf si le ministre américain des Affaires étrangères, Anthony Blinken, fournit des informations qui les justifieraient. Les Européens sont donc en train de peaufiner l'arsenal de sanctions dont ils menacent la Russie. » Et dans le même temps, la Commission européenne propose d'allouer une aide financière au gouvernement ukrainien, des prêts et des subventions à hauteur d'1,2 milliard d'euros. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Au Mali, à l'issue de leur assemblée générale tenue à Bamako du 17 au 19 janvier, les évêques maliens analysent la vie de l'Église dans leur pays. Ils se disent également peinés et préoccupés par la situation sociopolitique tout en préconisant les dialogues. Donatien Niembo.
Comme de coutume, la conférence épiscopale du Mali, CEM en sigle, a tenu son assemblée statuaire ordinaire les 17, 18 et 19 janvier 2022 à l'archevêché de Bamako. Au cours de cette session, les évêques ont examiné l'avis des institutions de la CEM, prenant des dispositions pour une bonne préparation du synode de 2023. Concernant la situation dans leur pays, les évêques maliens se sont dit très peinés et préoccupés. Mais dans la foi en Dieu, poursuivent-ils, civils et confiant en leurs compatriotes ainsi qu'aux personnes et institutions qui nous viennent en aide, nous réaffirmons notre foi à la vertu du dialogue entre frères, a déclaré le président de la conférence épiscopale, Mgr Jonas Dembélé. Par ailleurs, les prélats appellent les autorités maliennes, la CDAO, ainsi que les autres instances internationales au dialogue pour trouver, dans la concession mutuelle, une solution acceptable par tous pour le bien des paisibles populations.
Allons au Tchad. L'hôpital du district sanitaire de Lagone, dans le diocèse de Pala, a bénéficié d'une structure sanitaire en bloc opératoire et maternité. Ce don est œuvre de l'annonciature apostolique du Tchad et bienfaiteur italien. Reportage de Séverin Dingatoloum.
Tout a commencé avec la célébration de l'Eucharistie, action de grâce par excellence au Seigneur de qui vient toute chose. S'appuyant sur les textes choisis pour la circonstance, extrait de la parabole du bon samaritain, Monseigneur Dominique Tinodi, évêque du diocèse de Pala, a invité toute la population à faire pareil.
Quand quelqu'un souffre et que nous sommes devant cette personne qui souffre, la chose à faire c'est l'action, venir en aide à la personne qui souffre. Et quand il a fini la parabole, il dit... Va et fais pareil. J'emprunte donc la voix du Seigneur pour dire, Monsieur le Préfet, va et faire pareil. Sa Majesté, le chef de canton, va et fais pareil. Le délégué de la santé, va et fais pareil. Les prêtres, tous les fidèles, allez et faites pareil.
Pour le chargé d'affaires à l'annonciature apostolique au Tchad, Monseigneur Mihai Tablaj, l'Église catholique cherche toujours à répondre aux besoins des nécessiteux.
Dès le début de sa présence, l'Église catholique a été toujours sensible à la souffrance, à la pauvreté, aux besoins de la population locale. On ne regarde jamais ni la race, ni la langue, ni le genre, ni la culture de la personne qu'on a devant. Je te demande seulement ta souffrance. C'est notre esprit.
Si alors que les autorités locales et la population n'ont pas caché leur satisfaction. Séverin Dingatoloum pour Radio Vatican.
Avant de refermer cette page de l'actualité de l'Église, faisons un tour sur la troisième édition du Dimanche de la Parole, célébrée à la cathédrale Saint-André de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Le père Mathieu Kofi Krou, responsable diocésain de la liturgie, a invité les fidèles à se familiariser avec la parole de Dieu.
Le Dimanche de la Parole de Dieu, célébré dans une grande ferveur à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Procession de l'évangélière, mobilisation des fidèles et des lecteurs, le père Mathieu Kofi Krou, co-président la messe ce dimanche 23 janvier 2022, a appelé les fidèles à se familiariser avec la parole de Dieu. Le responsable diocésain de la liturgie du diocèse de Yopougon, dans son intervention en fin de messe, a demandé à chacun d'entre eux d'avoir une Bible et à méditer quotidiennement la parole de Dieu.
Nous avons fait la procession de l'évangélière pour montrer la centralité de la parole de Dieu dans la célébration liturgique. Et nous avons exhorté surtout les fidèles à se familiariser avec cette parole, à avoir chacun une Bible chez lui à la maison, à lire quotidiennement ou sinon régulièrement la parole de Dieu, la Bible, afin de connaître Dieu. Car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul et véritable Dieu. Jean chapitre 17, verset 3.
Cette messe a été l'occasion pour les lecteurs de cette cathédrale d'être envoyés en mission. Pour Kwame Ange Parfait, leur président, l'institution du Dimanche de la Parole de Dieu les invite à mettre au centre de leur vie la parole de Dieu.
Si le pape a eu cette inspiration, c'est pour nous emmener à véritablement nous approprier cette parole-là, qui est lumière, qui est esprit, qui est vie, que nous vivions selon cette parole et qu'elle nous apporte la paix à nos familles, la paix au monde entier. Et que par cette parole, beaucoup de cœurs soient guéris.
Marcel Aristone Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Ouvrons l'actualité sociale et politique en Afrique avec le Burkina Faso. Au lendemain du coup d'État qui a renversé le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore, Ouagadougou a retrouvé son calme. Des centaines de manifestants sont descendus mardi dans les rues de la capitale burkinabé pour manifester leur soutien aux militaires. Le climat était serein dans la ville, les commerces étaient ouverts et la population vaquait à ses occupations. C'est ce que nous a confirmé mardi le père Ludovic Touguma, prêtre de la communauté missionnaire de Villa Reja depuis Ouagadougou.
Ouagadougou respire un air de normalité. Les gens vaquent à leurs occupations de manière normale. La circulation est à son plein, le trafic est intense. Donc vraiment au lendemain, les gens sont vraiment tranquilles et vaquent à leurs occupations. Les écoles, il y avait déjà décrété dès le début du coup d'État 2 jours de fermeture des écoles. Donc le porte-parole du groupe qui s'est présenté à la télévision a invité à reprendre la vie normale. Donc ce matin, les gens ont bougé normalement. Il y a un couvre-feu, mais ça n'empêche pas de bouger. La vie a repris normalement. Les commerces sont ouverts. J'ai traversé la ville d'un bout à l'autre et j'ai pas vu de signe de crispation ou de peur. Il n'y a pas de manifestation actuellement. Je sais que la population se prépare à faire une manifestation de soutien. Je pense qu'en étant ici sur place, on peut dire que ce n'est que l'aboutissement de quelque chose qu'on voyait venir, parce que le mécontentement, donc, pour les personnes, il n'y a pas eu de contestation particulière, peut-être dans les débats privés, mais concrètement, les gens ne manifestent pas un mécontentement. Je pense que les gens ne sont pas surpris, ils ne sont pas surpris.
Depuis Ouagadougou, le père Ludovic Touguma, prêtre de la communauté missionnaire de Villa Regia. Toujours au sujet de la situation au Burkina Faso, Donatien Niembo souligne quelques faits qui ont marqué la journée de lundi et mardi.
Le calme était revenu mardi au Burkina Faso au lendemain du coup d'État qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore. Mardi, la vie semblait avoir repris son cours normal à Ouagadougou, la capitale. Le grand marché, les commerces ou les stations-service étaient ouverts, sans présence militaire particulière au centre-ville, ont constaté des témoins sur place. Lundi après-midi, une quinzaine de militaires étaient apparus à la télévision nationale pour annoncer mettre fin au pouvoir de Monsieur Kabore, président depuis 2015. Le pouvoir est désormais entre les mains du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPCR et son homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, commandant de la 3e région militaire qui couvre notamment la zone Est, une des plus touchées par les attaques djihadistes. Le mouvement de militaires a instauré un couvre-feu de 21h à 5h juste heure locale, fermé les frontières, dissous l'Assemblée et suspendu la Constitution. Ce coup de force est venu clore 3 jours des manifestations contre l'incapacité du pouvoir à mettre fin aux attaques djihadistes à répétition. L'ONU et plusieurs pays ont réclamé mardi la libération immédiate du président Kabore.
La tempête tropicale Anna, qui s'est formée à Madagascar, a traversé l'océan Indien pour atteindre le Mozambique et le Malawi. Sur son passage, elle a laissé d'énormes dégâts dans ces 3 pays, dont 30 de morts, de nombreux blessés, des maisons détruites et une grosse panne d'électricité. Marie-Josée Mwando-Boabualo nous en dit plus.
Avec l'émergence d'une tempête tropicale modérée dans le sud de l'océan Indien, la saison cyclonique a été officiellement lancée. Baptisée Anna, la tempête tropicale a fait 34 morts à Madagascar et 2 au Mozambique. Elle a privé d'électricité la majeure partie du Malawi. La tempête Anna a déclenché de fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain dans la capitale malgache Antananarivo. Outre la 30aine de morts, près de 65 000 autres personnes sont sans abri depuis la fin de la semaine passée. Après avoir traversé l'océan Indien, les fortes pluies se sont abattues sur le nord et le centre du Mozambique. Au moins 2 personnes ont été tuées et 49 blessées dans la province de Zambézia. Le gouvernement mozambicain et les agences des Nations Unies estiment à 500 000 le nombre de personnes affectées par Anna dans les provinces de Nampula, Zambézia et Sofala. Au Malawi voisin, la tempête a plongé la majeure partie du pays dans le noir lundi. Des inondations soudaines ont forcé les compagnies d'électricité à cesser le fonctionnement de leurs générateurs. Mardi, elles ont commencé à reprendre le service de leurs générateurs au Malawi.
Au moins 32 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans des attaques menées dimanche dans une région du Soudan du Sud, minée par les violences intercommunautaires, selon un bilan communiqué mardi par l'ONU. Ces attaques meurtrières visant 2 villages situés dans la localité des Bedi, dans l'état oriental de Jonglei, ont été menées par de jeunes armées d'un groupe ethnique rival qui ont ouvert le feu et incendié des maisons faisant fuir les habitants.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Au Soudan voisin, 9 médecins de Médecins sans frontières arrêtés en marge des défilés anti-putsch lundi à Khartoum ont été relâchés, a indiqué mardi l'ONG, alors que les praticiens soudanais ne cessent de dénoncer des attaques contre les corps médicaux submergés par la répression sanglante. des camions transportant une aide alimentaire pour la région éthiopienne du Tigré, touchée par la guerre, étaient bloqués mardi à un poste de contrôle dans la région voisine de l'Afar, ont indiqué des sources humanitaires. Les gouvernements et les rebelles du Front des libérations du peuple du Tigré, qui s'affrontent depuis plus de 14 mois dans le nord du pays, s'accusent mutuellement de la situation. La junte au pouvoir au Mali a demandé lundi au Danemark de retirer immédiatement la centaine de soldats arrivés récemment dans le pays pour participer au groupement européen des forces spéciales Takuba initié par la France. Le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, a déclaré mardi que le Danemark avait envoyé les forces spéciales au Mali à la suite d'une invitation claire du régime malien et essaie de clarifier pourquoi il a subitement demander leur départ. Le gouvernement de la transition au Mali a indiqué que ce déploiement était intervenu sans son consentement. Deux soldats sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie et un présumé rebelle casamançais ont été tués lundi dans un accrochage dans l'ouest de la Gambie, a indiqué l'état-major sénégalais. Le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, prévu dimanche à Yaoundé, sera déplacé dans les seconds stades de la capitale camerounaise après la bousculade meurtrière de lundi soir dans la principale enceinte. C'est ce qu'a annoncé mardi le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, signalant qu'une bousculade à une entrée du stade d'Olembe lundi soir, peu avant les huitièmes de finale Cameroun-Comores, a fait au moins 8 morts et 38 blessés.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine sur les développements nous conduit au Mozambique, qui vient de bénéficier d'une subvention à hauteur de 47 090 000 dollars américains de la part du conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement. Françoise Niamia.
Cette subvention servira pour le financement de la première phase de la zone spéciale de transformation agro-industrielle du corridor de développement intégré à Pemba, Lichinga. Cet appui issu du Fonds africain de développement contribuera à améliorer la productivité agricole et le développement du secteur agro-industriel dans la province de Niassa, au nord du pays, en renforçant les capacités institutionnelles, les compétences et l'entrepreneuriat afin de stimuler la croissance de la chaîne de valeur agricole.
Alors Françoise, ce projet permettra d'améliorer la coordination des politiques et du développement entre la province de Niassa et les départements nationaux, en particulier avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les ministères de l'Agriculture et du Développement Rural.
C'est bien cela, Stanislas. Ajoutons que les zones spéciales de transformation agro-industrielle sont des initiatives de développement intégré conçues pour concentrer les activités de transformation agro-industrielle dans des zones à fort potentiel agricole afin de stimuler la productivité, d'intégrer la production, la transformation et la commercialisation de certains produits de base. Aussi, ces zones permettront aux exploitants agricoles, aux entreprises de transformation, aux agrégateurs et aux distributeurs d'opérer dans le même périmètre afin de réduire le coût de transaction. Cela permettra également de mutualiser les services de développement commercial pour accroître la productivité et la compétitivité. Associé à la mise en place d'infrastructures adéquates dans les zones rurales à fort potentiel agricole, les zones spéciales attireront des investissements d'agro-industriels et d'entrepreneurs privés qui contribueront au développement économique et social des zones rurales.
Alors Françoise, soulignons que cette subvention à hauteur de 47 090 000 dollars américains de la part du conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement s'inscrit dans les cadres de la stratégie nationale de développement du Mozambique pour la période 2015-2035.
Oui, cette subvention vise à l'amélioration des conditions de vie des populations grâce à la transformation structurelle de l'économie ainsi qu'à l'expansion et à la diversification de la base de production. Elle est en phase avec les efforts concertés de la communauté internationale pour aider le Mozambique à promouvoir une croissance économique inclusive et la consolidation de la paix dans le nord du pays. Le projet est également sont en adéquation avec le document de stratégie pays 2018-2022 de la Banque africaine de développement pour le Mozambique, en mettant un accent particulier sur les provinces du Nord et avec l'une des 5 priorités stratégiques, I5 de la Banque, nourrir l'Afrique qui œuvre à la transformation de l'agriculture.
Notre rubrique d'aujourd'hui est consacrée à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux. Œcuménisme en temps des pandémies, de crise à opportunité. C'est le titre du document présenté jeudi 20 janvier par les conseils pontificaux pour la promotion de l'unité des chrétiens. Résultat d'une vaste enquête sur l'année 2021 auprès de toutes les conférences épiscopales du monde, le document est une synthèse des réponses reçues de la part des 142 conférences épiscopales et synodes des églises catholiques orientales. Et il en ressort que la pandémie a été une sorte d'accélérateur du dialogue œcuménique et une prise de conscience de la nécessité de travailler ensemble, comme en témoigne le père Hyacinthe d'Estivelle, official du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
Je pense que le premier fruit œcuménique de cette pandémie, c'est la conscience d'être une seule famille chrétienne. Une conscience qui est enracinée dans l'expérience d'une destinée commune. Finalement, nous marchons tous vers un destin commun qui est celui de la résurrection. Mais nous sommes aussi frappés par cette pandémie et marqués par une vulnérabilité commune.
Et en retraçant ces deux années compliquées, difficiles pour l'ensemble de la planète, vous faites aussi le constat que dans bien des situations, les confinements, qui ont été des moments extrêmement difficiles pour les familles, pour les personnes, mais pour les églises et pour les différentes confessions chrétiennes, on a su parfois, et bien souvent même, les transformer en opportunités. Alors, sous quelle forme d'opportunités ces confinements ont-ils été transformés ?
Le rapport fourmille d'exemples très concrets, des, à la fois dans le domaine de l'écuménisme spirituel, de prières communes, de prières en ligne. Certains évêques disent même que jamais la semaine de prière pour l'unité des chrétiens n'a été autant suivie que l'année dernière, puisque les rapports portent sur l'année 2021-2020. Il y a eu énormément d'initiatives conjointes, des déclarations conjointes, des actions conjointes auprès des gouvernements, des programmes écuméniques pour aider toutes sortes de publics touchés d'une façon ou d'une autre par la crise, les personnes âgées, je pense à un programme en Inde en particulier, un programme écuménique, les étudiants aux Pays-Bas, par exemple, il y a un programme écuménique pour aider les étudiants aux Pays-Bas qui est très efficace, qui s'est développé, des initiatives écuméniques d'écoute en ligne des personnes isolées en Inde aussi. Donc tout cela, ce sont des initiatives qui sont nées de la pandémie, finalement, des initiatives écuméniques, que ce soit dans le domaine de l'écuménisme spirituel ou dans l'écuménisme pratique, qui ont finalement redonner un grand dynamisme à la vie écuménique locale.
On a l'impression, à vous entendre, que pendant deux ans de pandémie, tout a été plus facile.
Non, pas vraiment. Disons, je crois qu'il faut lire les signes des temps. Et lire des signes des temps, c'est aussi, à la lumière de l'Évangile, c'est aussi lire cette crise de la pandémie aussi d'un point de vue écuménique et essayer de voir quels ont été les fruits positifs. Mais évidemment, il y a eu aussi des zones d'ombre. Je dirais qu'il y aurait trois points, disons, plus difficiles qui ont émergé durant la pandémie. D'une part, la mise en évidence de divergences théologiques et liturgiques qui ne sont pas nouvelles, mais qui ont été révélées d'une certaine façon ou accentuées par la pandémie. En particulier, la compréhension de l'espace sacré. On s'est rendu compte que les orthodoxes, les catholiques, les protestants, nous avions un rapport différent à l'espace sacré. On s'est rendu compte aussi, on le savait déjà, mais ça a été accentué par la pandémie, que nous avions une compréhension différente des sacrements, de la nécessité de la présence physique pour recevoir les sacrements. Et finalement aussi, une conception un peu différente de l'Église. Après, le deuxième point, un peu de difficulté, ça a été aussi la compréhension de la pandémie. Certains chrétiens avaient une conception plus providentielle ou parfois plus eschatologique ou même des fois apocalyptique de la pandémie, et cela aussi a généré des tensions parfois entre les chrétiens. Enfin, un troisième domaine, c'était les attitudes différentes à l'égard des restrictions en matière de santé. donc là, qui ont été plus ou moins aussi acceptés. Ça dépend beaucoup, dépendait en fait de la culture locale, en particulier la relation à l'autorité, qui n'est pas la même dans les pays occidentaux, dans les pays de l'Est, dans les pays du Sud, mais qui n'est pas la même non plus selon les églises. Donc dans ces trois domaines, je dirais que la pandémie a aussi généré des tensions, oui, entre les chrétiens.
Alors ce rapport ne restera pas lettre morte, autrement je pense que vous n'auriez pas organisé ce sondage au niveau mondial. Est-ce qu'on peut dire qu'une petite graine a été plantée, qu'il va falloir maintenant faire germer? Comment se projeter dans le futur à la lumière de ce que vous récoltez aujourd'hui?
Le but de ce document, c'est de favoriser la réflexion, d'abord en lien avec les conférences épiscopales, dans un esprit de synodalité, mais aussi avec nos frères et sœurs chrétiens qui se posent les mêmes questions que nous. Et donc, notre espoir, c'est que ce document serve à une réflexion œcuménique.
Le père Hyacinthe Destivelle, interrogé par Jean-Charles Poutsolou.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que prend fin notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.